Je relis les quatre versets que nous avons déjà lus ce matin, les quatre premiers versets. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, c'est-à-dire aux pères du peuple d'Israël, vous comprenez, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ce matin, nous terminions notre première étude par cette proclamation que voici, je répète, seule la connaissance du caractère céleste de la personne et de l'œuvre du Christ peut faire de nous des chrétiens capables d'affronter toutes les difficultés. Nous avons basé cette proclamation sur 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, comme vous en souvenez. Donc, notre besoin prioritaire, puisque nous sommes partis dans notre étude en parlant des besoins actuels de l'Église, de la vie chrétienne. Les besoins, elle a des besoins. Alors, notre besoin prioritaire est de bien connaître Christ, Jésus-Christ. Bien connaître. C'est en raison de cette connaissance personnelle et profonde que notre vie spirituelle reprendra son essor et sa réalité. L'Épître aux Hébreux est un livre admirable pour l'approfondissement de la vie spirituelle. Elle nous adresse un message. Nous avons dit ce matin que avons rappelé que la parole de Dieu est éternelle et qu'elle est la vérité. Donc, par conséquent, elle est tout autant pour nous, maintenant, à cette heure, qu'elle l'était il y a des siècles. Elle nous adresse un message de repos, d'assurance et de foi. Elle nous indique le chemin d'une vie de sainteté, d'une vie d'assurance, de repos dans la lutte. Il y a lutte, certes, mais il y a repos dans la lutte en attendant le retour du Seigneur. La parole que cet épître nous adresse a pour intention de transformer notre vie. Et je vous rappelle que l'apôtre Paul nous dit « Soyez transformés, soyez métamorphosés, soyez transformés. » Eh bien, comment être transformé? L'épître aux Hébreux nous le dit. Voulons-nous être délivrés de la tiédeur et de la pauvreté d'une vie instable, alors laissons-nous instruire par l'Épître aux Hébreux. Nous avons quelques petites indications à donner sur l'Épître elle-même, sur son texte. D'abord, a-t-elle un auteur? Vous savez que précédemment, c'est-à-dire au XIXe siècle encore, surtout, on attribuait l'Épître aux Hébreux à Paul, l'apôtre Paul. Les pères de l'Église, d'ailleurs, les pères de l'Église des premiers siècles, des tout premiers siècles, furent divisés sur le point de savoir quel était l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Certains affirmaient qu'elle était de Paul. Même à l'époque moderne, il y a encore des auteurs qui affirment qu'elle est de Paul. Par exemple, Émile Guerre, qui est qui était un pasteur protestant du 19e siècle, qui nous a laissé de très bonnes choses. Lui, il est affirmatif, pour lui, l'Épître aux Hébreux a été écrite par Paul. D'autres se disaient convaincus du contraire. Donc certains sont convaincus qu'elle est de Paul, d'autres sont convaincus du contraire. Et bien entendu, j'ai lu les arguments des uns et des autres. À défaut de Paul, on a pensé à d'autres auteurs possibles. On a pensé à Barnabas, on a pensé à Luc, on a pensé à Aquilas, dont Paul parle, on a pensé à Apollos. Luther, notamment, croyait que l'Épître aux Hébreux était due à Apollos. On a pensé à Clément de Rome, etc. Mais les débats relatifs à la question de l'auteur sont assez souvent ardents, passionnés presque, mais après en avoir pris connaissance, il semble difficile de s'arrêter à une opinion. Quand on lit Émile Guerre, par exemple, ce que j'ai fait naturellement dans les temps de préparation, ben, on se dit, il a raison, oui, ça semble être bien de la main de Paul. Et puis après, on lit, n'est-ce pas, une autre thèse, une thèse opposée, on se dit, ben non, c'est pas de Paul, ça. Ben non, en effet, il y a des choses qui sont pas de lui. Bon, alors disons que Dieu seul sait quel est l'auteur. Dieu seul le sait. Et qu'il vaut mieux s'en tenir à dire que l'auteur de notre épître est le Saint-Esprit, parce que c'est manifeste. Et que l'épître, évidemment, a été écrite par un homme ou deux hommes, certains ont supposé qu'il y avait deux auteurs, un homme ou deux hommes, dont le nom reste dans l'ombre. Et cela ne nous importe donc pas. Paul, je dirais que pour ma part, ceci, moi je ne pense pas que ce soit de Paul, pour la bonne raison que, c'est très simple, que Paul a signé ses 13 épîtres. Il les a signées toutes. Et pourquoi n'aurait-il pas signé l'épître aux Hébreux si elle était de lui? Pourquoi? Pourquoi n'aurait-il pas signé celle-là, n'est-ce pas? Voyez, voilà une chose, une réflexion très simple. Par conséquent, restons dans l'incertitude, nous n'avons pas besoin de le savoir, ça ne nous gêne absolument pas. Les destinataires, les Hébreux, eh bien, il y a une chose à remarquer, c'est que l'épître dite aux Hébreux n'était pas ainsi désignée à l'origine. Elle était une épître destinée à des chrétiens. Le titre aux Hébreux ne faisait pas partie du texte original. Il a été ajouté à une date ancienne, mais enfin, pas au début, au premier siècle, au deuxième siècle, on ne l'appelait pas l'Épître aux Hébreux. Disons que si on a ajouté ce titre, c'est peut-être pour indiquer que l'Épître était destinée à des chrétiens d'origine juive, plus particulièrement. Et cela semble assez probable. On a beaucoup discuté aussi sur la date de composition de l'Épître aux Hébreux. Je dirais simplement, je ne vais pas, vous savez, il y a des pages et des pages qui ont été écrites à ce sujet-là. Je dirais pour moi tout simplement qu'elle a été composée avant l'an 70. Avant l'an 70. Pourquoi l'an 70? Parce que en l'an 70, les légions romaines prenaient définitivement possession de Jérusalem, du temple, qui était incendié d'ailleurs, n'est-ce pas? Et le détruisait le temple, c'est à cette année-là, par l'action du général romain Titus, que beaucoup de Juifs ont été dispersés, beaucoup ont été tués. Il faut compter au moins 1 million de victimes. Il est étonnant, il serait étonnant si l'épître avait été écrite postérieurement à l'an 70, il serait étonnant qu'aucune mention de la destruction de Jérusalem ne figure dans l'épître, parce que cet événement, s'il avait été antérieur à l'épître, aurait fourni à l'auteur un argument de poids en faveur du caractère passager du culte israélite. Or, cet argument n'y est pas. Et puis, il y a une deuxième raison. Le verset 13 du chapitre 8 annonce une proche disparition de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est près de disparaître. Une proche. Bon, alors on peut admettre que l'épître est donc antérieur à la destruction du temple, c'est-à-dire à la fin vraiment de l'ancienne alliance. Une fois le temple de Jérusalem disparu, il ne peut plus être question de toutes les ordonnances cérémonielles de la loi de Moïse. On peut admettre que l'épître aux Hébreux date de l'an 67, c'est-à-dire juste avant le commencement de la guerre juive, la guerre des légions romaines contre Jérusalem. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur la date de composition. Une mention simplement très rapide sur la langue de l'épître. Tous les auteurs, les hellénistes bien sûr, s'accordent pour reconnaître que cette épître est écrite dans un grec excellent, dans un grec classique excellent, excellent. Elle se caractérise par la pureté du langage et l'élévation du style. Évidemment, il faut bien connaître le grec pour en juger. Elle a un style et un genre qui sont sensiblement différents de ceux des épîtres de Paul. En tout cas, c'est véritablement un style et une langue de premier ordre. Je ne vais pas vous donner un plan, comme on fait d'habitude, un plan détaillé de l'épître. Nous verrons bien à son étude ce qu'elle contient, mais je vais simplement vous donner une première perspective. Une première perspective de ce que l'épître vise. Il y a d'abord un préambule, nous l'avons lu tout à l'heure, Dieu a parlé par les pères et dans les derniers temps il a parlé par le Fils. Donc il y a un préambule qui occupe les trois premiers versets. À part ce préambule, on peut reconnaître en somme à l'épître quatre parties, très simplement. La première partie, après le préambule, cette première partie qui vient est celle qui traite de la grandeur suprême de Jésus-Christ. La grandeur suprême de Jésus-Christ. Alors là, ça va du verset 4 du chapitre 1, chapitre 1, verset 4, au chapitre 7, verset 28. Jésus-Christ est présenté comme supérieur aux anges. D'abord, je vous dirai pourquoi. Pour nous, ça ne pose pas tellement de questions, ça, hein, que Jésus-Christ soit supérieur aux anges. Peut-être pour les témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah disent qu'ils, malheureusement, ne reconnaissent pas la divinité de Jésus-Christ. Ils disent que Jésus-Christ serait un ange, un archange. Jésus-Christ est supérieur aux anges. Mais pour nous, ça ne pose pas de problème. Mais ça en posait un. Je vous expliquerai pourquoi. Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Jésus-Christ est supérieur à Josué. Jésus-Christ est supérieur au souverain sacrificateur de l'ancienne alliance. Et Jésus-Christ est Melchisédek, ce personnage mystérieux sur lequel nous nous arrêterons. Jésus-Christ et Melchisédek sont placés sur le même plan. Sur le même plan. Bon, deuxième partie de notre épître, du chapitre 8, verset 1, au chapitre 10, verset 18, c'est la grandeur suprême de l'œuvre de Jésus-Christ. Grandeur suprême de l'œuvre de Jésus-Christ. La nouvelle alliance avec ce nouveau sanctuaire dans les cieux, le service d'expiation dans la nouvelle alliance. Il y a un service d'expiation dans la nouvelle alliance que nous étudierons. Ensuite, troisième partie après le préambule, nous pouvons la définir ainsi, elle va du chapitre 10, verset 19, au chapitre 12, verset 29. On peut la définir ainsi. Puisque nous avons un sanctuaire et un souverain sacrificateur, puisque nous avons un sanctuaire dans les cieux et un souverain sacrificateur également dans les cieux, alors rapprochons-nous. Alors retenons. Alors veillons. Alors n'abandonnons pas. Alors sachons utiliser la foi. Et alors encore, persévérons. Et soyons patients dans l'épreuve. Voyez. En somme, puisque nous avons un sanctuaire et un souverain sacrificateur dans les cieux, alors les conséquences sont, approchons-nous, retenons, veillons, n'abandonnons pas, sachons utiliser la foi, persévérons et soyons patients dans l'épreuve. Et puis enfin, la quatrième partie, qui est tout à fait à la fin, contient des recommandations essentielles qui n'ont pas présentent pas d'unité entre elles. Voilà. Alors nous allons maintenant suivre le texte. Nous avons lu les quatre premiers versets et au verset premier nous avions ceci. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi et héritier. Dieu a parlé, il a parlé à nos pères, c'est-à-dire aux pères du peuple d'Israël, il a parlé dans ces derniers temps par le Fils, Dieu a parlé. Si Dieu n'avait pas parlé, il n'y aurait pas de monde, ne serions pas là. C'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est important. C'est important. Ne serions pas là. La preuve que nous sommes là, la preuve qu'il y a du soleil dehors, et même qui entre, merci Seigneur, dans notre salle de réunion, il y a un cadre de verdure, il y a une terre qui porte ce cadre. Il y a des êtres vivants, végétaux, animaux, et les hommes. Eh bien, tout cela vient de ce que Dieu a parlé. Il faut que nous fortifions cette notion que la parole de Dieu n'est pas une parole comme celle des hommes. Alors, quand on discute de la parole de Dieu comme on discute de la parole des hommes, on est forcément là sur une très mauvaise voie. La parole de Dieu est un acte d'action. La parole de Dieu agit. Elle s'appelle parole, mais c'est une parole qui agit. Dieu dit et la chose se fait. Donc Dieu a parlé. S'il n'avait pas parlé, il n'y aurait pas de monde, il n'y aurait pas d'homme, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas d'univers. Le néant serait resté le néant. Si Dieu n'avait pas parlé, il n'y aurait donc rien que Dieu. Jean, vous savez, dans son évangile, Jean, l'apôtre Jean, reportons-nous à l'évangile de l'apôtre Jean, et lisons les trois premiers versets aussi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Eh bien, nous voyons là aussi, dans le début de cet évangile, que Dieu a parlé. La parole est donc l'origine et le fondement de toute chose. C'est une parole action. Origine et fondement de toute chose. Jean, lui, remonte très loin. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Elle existait. Puis, elle s'est mise à l'œuvre. Voilà ce que nous dit Jean. Donc, Jean remonte très loin. Tandis que l'épître aux Hébreux ne remonte, elle, que au Père du peuple d'Israël. Vous voyez, l'Épître aux Hébreux ne revient pas au commencement comme l'Évangile de Jean. La nature qui nous environne, parle de Dieu, de sa grandeur, de son infinie puissance. Je pourrais vous lire dans la Bible en français courant, au psaume 19, le verset 1 du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de David. Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots. L'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Je m'arrête là. Voyez, donc là, ce psaume, lui, nous fait réaliser que si la nature existe, c'est parce que Dieu a parlé, et que c'est la parole de Dieu qui a vraiment tout construit. Et il faudrait que nous, pour que nous puissions réaliser des progrès dans la vie chrétienne, et par conséquent des progrès dans la connaissance profonde des choses, qui ne soit pas une connaissance d'ailleurs intellectuelle, nous avons trop de connaissances intellectuelles, bien que nous ne soyons pas des grands savants, nous avons trop de connaissances intellectuelles. Il faut que nous ayons une connaissance de foi. Il faut que la foi fasse entrer dans l'être intérieur, comme dit l'apôtre Paul, dans l'être intérieur, fasse entrer ces notions. Ce sont des notions très grandes, très hautes, des notions que notre logique, la logique des hommes, la logique de la terre ignore. Et pourtant, il faut les recevoir telles que la Bible nous les présente. Avec la logique des hommes, avec les connaissances des hommes, nous ignorons tout le reste. Nous enfermons, les connaissances des hommes nous enferment. C'est ce qui fait que le monde, aujourd'hui, ce monde, est athée et s'enfonce de plus en plus dans l'incrédulité et dans la moquerie, dans le rejet, dans le refus. Et c'est parce que il est tellement féru de sa logique, tellement féru de ses connaissances, qu'il s'enferme, il en fait une prison, et puis il ne veut pas concevoir qu'il y ait au-dessus de cela, en dehors de cela, des connaissances plus grandes, plus hautes. Mais nous, chrétiens, nous nous ouvrons à ces connaissances. Et l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens, nous dit que nous nous regardons non pas aux choses visibles, aux choses apparentes, mais nous regardons aux choses invisibles. Nous regardons, c'est-à-dire nous sommes en relation, nous recevons un message concernant les choses de l'invisible, concernant des choses que nous ne pouvons pas discuter, mais nous les recevons par la foi, et nous en avons besoin, notre cœur en a besoin pour grandir. Comment Dieu a-t-il parlé? Eh bien, il a parlé, nous dit notre épître, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il a parlé donc par des inspirations directes, par des inspirations. Je crois que encore maintenant, sans naturellement qu'il soit question d'ajouter la moindre idée, le moindre mot à l'écriture actuelle, mais que Dieu peut toujours parler par des inspirations directes, par des visions. Des visions, vous savez, il y en a de différentes sortes, des visions. Par des visions, par des songes. Autrefois, il a parlé par le moyen des Urim et des Thummim. C'est un moyen qui est resté assez mystérieux, mais enfin, nous savons qu'il était valablement utilisé dans l'Ancienne Alliance. Il a parlé par les prophètes qu'il avait établis. Donc, il avait parlé, en effet, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et les paroles de Dieu ont toutes pris la même direction, le même objet. Toutes les paroles de Dieu ont pris la même direction, le même objet, la grande unité des Écritures. Et cette direction, cet objet, c'est le Messie et le salut qui vient par lui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, nous dit encore le préambule de notre épître. Les temps ou les jours, parce que quelquefois dans certaines versions c'est non pas le mot temps mais le mot jour, les temps ou les jours qui sont les derniers. Dieu donc nous a parlé dans les temps ou les jours qui sont les derniers. Cette nouvelle manière de parler est la dernière. La dernière. Il n'y en aura aucune autre. Et quand Dieu parle par son Fils, c'est la fin. Avant, il avait parlé par des visions, par les Urim et Thummim, il avait parlé par les prophètes. Mais là, il parle par le Fils. Et alors là, c'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Et pourquoi? C'est dans les jours qui sont les derniers que Dieu a parlé par son Fils. Ça ne peut pas être autrement. C'est la fin des temps. C'est la révélation de Dieu finale, celle qui atteint le terme des révélations. Quand Jésus vint sur la terre et qu'il y fut crucifié, l'on était déjà parvenu à la fin des siècles. C'est ce qu'on exprime d'une façon un peu plus savante, en disant que l'Église est tout entière, le temps de l'Église est tout entier placé dans les temps eschatologiques. Toute l'Église est eschatologique. Tout le temps de l'Église est eschatologique, c'est-à-dire est vraiment temps de la fin. Alors, quand Jésus est venu, on était parvenu à la fin des siècles, c'est-à-dire à la période qui va conduire à la fin de l'histoire des hommes. La fin du monde, c'est la fin de l'histoire des hommes. Dieu a parlé par son Fils. En somme, les prophètes ont exercé un ministère préparatoire qui ne pouvait réaliser pleinement le dessein de Dieu. La délivrance du péché et la communication de la puissance de vie ne s'y trouvaient pas. Quand Dieu a parlé par les prophètes, il n'y avait pas la délivrance du péché, il n'y avait pas la communication de la puissance de vie. Il fallait que le Fils de Dieu vienne vers les hommes en tant que parole de Dieu qu'il est, parole agissante, possédant en toute sa personne l'expression même des desseins de Dieu. Je dis bien dans toute sa personne l'expression des desseins de Dieu. Quand Jésus agit, qu'il parle, qu'il agit, ce sont les desseins de Dieu qui se mettent en place. Et il était porteur de la vie divine et dispensateur de l'amour du Père. Il fallait que le Fils vînt pour réconcilier l'homme perdu avec le Dieu souverain et juste, pour le libérer de son état de péché et de sa condamnation, et pour établir la communion de l'homme pardonné avec le Père par le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus disait, « Moi, je suis d'en haut, vous, vous êtes d'en bas. » Alors, lui, il est d'en haut. Pourtant, il est descendu, il est venu, il s'est abaissé, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, et puis, il a paru comme un simple homme, il est entré dans une chair semblable à celle du péché. Et en somme, donc, vous voyez le Seigneur Jésus-Christ entre cette masse humaine, pécheresse, ces hommes pécheurs, ces hommes ravagés, torturés par le péché et ses conséquences, vous les voyez là sur la terre, et le Dieu trois fois saint. Et puis, entre deux, voici que là, il y a Jésus, qui est un avec le Père, parce qu'il est Dieu, il est un avec le Père, la parole de Dieu est Dieu, il est un avec le Père, et de l'autre côté, il est un avec les hommes, puisqu'il est entré dans la famille humaine. Et il a revêtu notre humanité. Donc, il tient la famille humaine d'un côté, il tient Dieu d'autre part, et lui au milieu, qu'est-il ? Le médiateur. Le médiateur. Le médiateur. Comme le précisera notre épître, il est le médiateur. Et alors, l'homme veut-il quelque chose de Dieu ? Il faut qu'il passe par le médiateur. C'est dans le médiateur, là, qu'il trouvera tout ce que Dieu entend lui donner pour son salut. Le Fils, nous est-il dit, est héritier de toute chose, et c'est par lui que Dieu a créé le monde. La création, en effet, a été accomplie par le Fils. L'Épître aux Colossiens nous le rappelle, l'Épître aux Colossiens, dont je pourrais lire dans la Bible en français courant, Épître aux Colossiens, tout au début, Colossiens, chapitre 1, verset 15, le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né supérieur à tout ce qui a été créé. C'est ce que notre épître va s'appliquer à mettre en lumière. Il est le premier-né supérieur à tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. C'est par lui. Ce qui est visible et ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs, Dieu a tout créé par lui et pour lui. Et pour lui. Du fait que la création a été accomplie par le Fils, elle est destinée au Fils. Et le péché étant survenu dans le monde des hommes, dans la famille humaine, Alors, à ce moment-là, ce qui aurait été normal, c'est que l'humanité soit immédiatement supprimée. Seulement, dans la Genèse, au début, Dieu écarte cette solution et Dieu annonce, au contraire, qu'il apportera un salut, une voie de salut. Mais enfin, si le monde existe, maintenant, alors que le monde est livré au mal et au péché, au désordre, à l'iniquité, eh bien, c'est quelque chose d'anormal. C'est quelque chose d'anormal. Dieu supporte cette anomalie parce que il a introduit sur la terre la voie du salut en son Fils. Le Fils a été établi héritier de toutes choses, et en cela apparaît la volonté de Dieu en rapport avec l'œuvre de Jésus. Héritier de toutes choses, parce que c'est son œuvre. Je vais maintenant lire au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, et les versets 7 et 8. Nous sommes là, nous y repasserons tout à l'heure, nous sommes là dans la citation du psaume 8. « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. » En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Et puis, dans le psaume 2, également, le psaume numéro 2, verset 8, psaume 2, verset 8, nous lisons, « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. » Oui, c'était bien la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, de faire de son Fils l'héritier de toutes choses. « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Et puis, dans les Philippiens aussi, nous avons une réaffirmation de ce que Dieu a voulu que son Fils soit héritier de toutes choses. « Ce Fils, nous dit notre épître, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. » On peut dire que, pour bien comprendre ça, que le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Dieu est lumière. Dieu est lumière. De cela, nous avons l'affirmation dans la première épître de Jean. Et le Fils peut être considéré comme le rayonnement venu de Dieu, car c'est par lui que la glorieuse lumière nous parvient. C'est très beau d'affirmer, mais il faut démontrer par l'Écriture. Enfin, c'est l'Écriture qui nous permet d'asseoir tout ce que nous affirmons. Je prends Ésaïe 42, 6. Ésaïe 42, 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Dans le début de l'évangile de Luc aussi, Luc chapitre 2 et verset 32, nous avons ceci, 2, 32, lumière, ça il est parlé de Jésus, de l'enfant qui va naître, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc, voyez, n'est-ce pas, que le plan de Dieu apparaît bien ici. Dieu a voulu que son Fils soit le rayonnement de sa gloire. Le soleil n'est connu que par la lumière qu'il nous envoie. S'il ne nous envoyait pas de lumière, nous ne soupçonnerions pas même son existence. Il y a des étoiles qui ne rayonnent rien du tout, des quasars, on les appelle, et ces étoiles, on est arrivé à déceler leur existence, mais elles ne se révèlent pas par un rayonnement de lumière. Mais là, nous pouvons dire que le soleil est connu par la lumière qu'il nous envoie. Le texte dit que Jésus est l'empreinte de la personne du Père. Car en effet, comme un fils ressemble à son Père, ainsi le Fils de Dieu porte l'empreinte de la personne de Dieu. Et par exemple, considérons ceci. Dieu est infini. Ça, c'est une chose, une affirmation capitale, cela. Dieu est infini. Si Dieu était fini, Dieu pourrait être piégé quelque part. Dieu pourrait être surpassé par quelque chose. Mais il est infini, il n'est surpassé par rien du tout. Il est infini. Dieu est infini. C'est son, on peut dire, ce caractère essentiel qu'il faut considérer. Dieu est infini et il ne peut placer son empreinte que dans celui qui est lui-même infini. Alors, ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus, voyez cette simple remarque. Vous voyez comme que déjà dans quelle erreur ils sont. S'ils ne donnent pas tort à l'Épître aux Hébreux, et je pense qu'ils ne le donnent pas, les témoins de Jéhovah, par exemple, bon, ils ont, comme nous, le texte de l'Épître aux Hébreux, mais ils vont dire que Jésus n'est pas Dieu. Alors, Dieu aurait mis son empreinte sur quelqu'un qui ne serait pas infini comme lui est infini, c'est impossible. Pour que Dieu mette, le Père mette son empreinte sur quelqu'un, qui est appelé le Fils, il faut que ce Fils soit lui-même infini. Donc il est Dieu. Le Fils est la parfaite image du Père. Ce que nous avons vu tout à l'heure, l'Épître aux Colossiens réaffirme. En conséquence, puisque le Fils est la parfaite image du Père, il ne peut y avoir de lumière en dehors du Christ. Mais en dehors de lui, qu'y a-t-il uniquement de pures ténèbres? En dehors du Christ, il n'y peut y avoir que des ténèbres. Lui seul, en lui seulement, et par lui, il peut y avoir lumière. Il est la lumière du monde, comme nous l'avons lu dans Jean. Deuxièmement, Dieu ne peut être vraiment et entièrement connu qu'en Christ. Voilà deux conséquences importantes qui découlent de cette affirmation que Jésus est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Et puis, le verset 3 de notre épître nous dit que Jésus soutient toute chose par sa parole puissante. Dans la version Tob, la version œcuménique, mais le mot œcuménique qui est attaché à cette version, la version TOB, traduction œcuménique de la Bible, ne faut pas lui prêter là un sens péjoratif, un sens mauvais, parce que cette traduction est bonne. Elle a des défauts, quelle est la traduction qui n'en a pas? Bon, elle a des défauts, mais elle a de grandes qualités. En tout cas, moi, quand elle n'était pas parue, j'étais très méfiant, mais depuis sa parution, je me suis réjoui parce que c'est vraiment une Bible qu'on est donc, que tout le monde soit obligé de reconnaître la traduction dite œcuménique de la Bible. Eh bien, dans cette traduction, à la place de soutenant toute chose par la parole puissante, il y a Il porte, Jésus porte l'univers par la puissance de sa parole. Il porte l'univers. Dans la version de Jérusalem, il soutient l'univers par sa parole puissante. Ayant créé toute chose, c'est aussi par lui que toute chose subsiste. Ça, l'Épître aux Colossiens le réaffirme aussi dans le verset 17 du chapitre 1er. Porter l'univers, porter la création ou soutenir la création, cela veut dire maintenir en existence, d'une part, donc par sa parole, Jésus maintient en existence, puisque le Père l'a résolu en raison du plan de salut, il maintient donc l'univers en existence, et deuxièmement, porter ou soutenir, ça veut dire aussi gouverner. Gouverner. La conservation du monde met en jeu constamment l'action créatrice. Elle est constamment en jeu. Si nous voulons en avoir une petite idée, enfin une idée quand même, pensons aux végétaux, aux arbres particulièrement, et qui, je parle des arbres à végétation caduque, ils paraissent morts en hiver, morts. Ils se réveillent au printemps, et ils vont porter là des fleurs et ensuite des fruits, et la substance de ces fleurs et de ses fruits ne résidait pas dans l'arbre mort. Elle n'y était pas, cette substance. Il n'y avait pas la substance du fruit. Quand vous mangez une belle pomme, comme ça, vous avez pris sur le pommier, hein, eh bien, quelques mois plus tôt, quand l'arbre était mort, la substance de cette pomme n'y était pas. Vous mangez donc là quelque chose, un fruit, dont la substance est apparue à travers l'arbre. L'arbre a été le moyen, mais il ne possédait pas cette substance du fruit. Alors là, que s'est-il passé? Il y a tout simplement eu un processus de création. Un processus de création, tout simplement. Oh, bien sûr, tous les savants qui étudient la génétique vont nous dire, mais je vais vous expliquer, moi, comment, n'est-ce pas, en raison des gènes, telle chose est arrivée, telle chose arrive, il faut ceci. Oui, ils sont bien gentils, ils nous disent, ils sont arrivés, évidemment, à pénétrer part du secret de la vie, et ils nous décrivent une chose, mais ils ne l'expliquent pas. Ils décrivent, mais ils n'expliquent pas. Ils vont expliquer par le moyen des descriptions. Et les expériences qu'ils ont faites, ils ont vu qu'en faisant telle et telle chose, on aboutit à ça. Bon, alors ça va leur donner un moyen d'explication. Mais on n'explique pas la chose, parce que c'est l'action créatrice de Dieu qui continue à s'exercer dans la création. Les êtres aussi, dont notamment les corps humains, sont en continuelle rénovation. J'ai eu l'occasion de le dire, vous savez que tous les 7 ans environ, nous avons changé de matière. La substance de notre chair, de nos tissus, de nos muscles, de nos os, toute cette substance a été entièrement renouvelée par chaque cycle de 7 ans. Et alors, quand on pense à ça, on dit, tiens, nous avons été renouvelés. Ça, la science le sait, le dit, n'est-ce pas seulement. Évidemment, la science est souvent enfermée dans cette irréductible incrédulité. C'est un mal, l'incrédulité, vous savez, et un mal terrible. Mais on peut dire ceci, nous qui envisageons les choses avec la foi, pouvons dire bien l'action créatrice, donc, agit dans la création. Mais nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, nous sommes une nouvelle création. Puisque l'Épître aux Corinthiens nous dit que nous sommes de nouvelles créatures, ou une nouvelle création. Nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création. Parce que nous avons été régénérés. Nous avons reçu le pardon des péchés, nous avons été régénérés par l'Esprit de grâce. Bien. Alors, nous aussi, nous devons être renouvelés. Puisque la matière elle-même, la matière vivante est renouvelée, il y a un cycle de renouvellement. Bien, nous aussi, nous devons être renouvelés. Et c'est ce que la Bible, dans sa logique à elle, nous dit. Voyez, par exemple, Colossiens, chapitre 3 et verset 10. Colossiens, chapitre 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, qui se renouvelle, voyez-vous, nous, voilà quelque chose qui est important, intéressant, infiniment intéressant pour nous, notre vie chrétienne. Nous sommes, Dieu a prévu un renouvellement de ce que nous sommes spirituellement. Notre corps se renouvelle, mais notre homme nouveau en nous se renouvelle de jour en jour. Il se renouvelle. Donc, nous sommes une nouvelle création et nous sommes toujours sous l'action créatrice de Jésus-Christ. Alors, l'Épître rappelle aussi que Jésus a fait la purification des péchés. En tant que sacrificateur, souverain sacrificateur, et comme victime expiatoire, il a fait la purification des péchés. Il est l'agneau qui ôte les péchés après les avoir expiés par l'offrande de sa personne, donnant sa vie de lui-même, comme il l'a précisé dans Jean 10, « Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même ». L'Épître s'étendra sur cette œuvre de Christ. Nous aurons l'occasion de le voir par la suite. La parole de Dieu se traduit, disions-nous, toujours en acte. C'est une parole acte, toujours. La purification des péchés constitue le fondement de l'œuvre de Christ. Cette purification commande la rédemption et la régénération. La rédemption, c'est le rachat. Le rachat. Il faut que Dieu nous reprenne. Et il faut que Dieu nous arrache aux puissances mauvaises qui nous tenaient, qui avaient fait de nous leur proie. Alors, la rédemption et la régénération. Et ces deux opérations sont conséquences du pardon des péchés, qui est une purification. Et c'est cette purification qui est aussi appelée justification. La justification, c'est aussi la purification. Et cette justification ne peut provenir que d'une vie de victoire et d'une accession de notre humanité à la perfection, et tout cela s'est opéré dans la personne même de Jésus. Jésus s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je voudrais vous rappeler à cette occasion ce que dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1 et verset 20. Il l'a déployé, la puissance, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef, c'est-à-dire pour tête suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Donc, le Seigneur, notre Dieu, notre Père, a mis dans son dessein cette résolution de faire asseoir son Fils à sa droite. Nous avons en somme deux phases qui se tiennent. Première phase, la purification des péchés qui s'opère sur la terre. Elle s'opère sur la terre, la purification des péchés. Deuxième phase, l'élévation du Christ s'asseyant à la droite de Dieu. Et cette phase se situe dans le ciel. Voyez, la première phase, elle est sur la terre, la purification des péchés. C'est Jésus mourant sur la croix pour expier les péchés, sur la terre. Et puis la deuxième phase, l'élévation du Christ s'asseyant à la droite de Dieu, qui se situe dans les lieux très hauts. Et alors, attention, tout homme, toute femme, en se convertissant, connaît ces deux aspects de l'œuvre de Christ. Tout homme, en effet, en se convertissant, reçoit le pardon de ses péchés en raison de l'œuvre de la croix. Il reçoit le pardon de ses péchés, nous avons dit que c'était fondamental. Puis, partageant la résurrection du Sauveur, il est emmené lui aussi dans les lieux célestes, la seconde phase. Alors, cela, c'est excessivement important, et ce qui est important, c'est que nous puissions y attacher une foi solide. En dehors de toute tentative de raisonnement quelconque, d'explication proprement humaine. Hein. Alors, voyons Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Est-ce que nous croyons que nous sommes assis dans les lieux célestes? Vous allez me dire, moi je suis assis actuellement dans cette salle de la Ligue pour la lecture de la Bible au Mas de Sumet, dans le Gard, en France, sur la terre. Je suis assis là. Eh bien oui, mais c'est notre corps qui est assis là. Et notre esprit, bien sûr, est conscient de cela. Nous sommes conscients de cela. Mais nous devons par la foi être conscients aussi que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous allons reprendre ce passage-là dans l'Épître aux Éphésiens. Dans la traduction œcuménique. Alors, chapitre 2, verset 5. Lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés à la vie avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. J'aime moins cette traduction-là. Non, il vaut mieux que nous restions là à la seconde. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer son infinie richesse, l'infinie richesse de sa grâce. Donc, tout homme, en se convertissant, connaît ces deux aspects de l'œuvre de Christ, le pardon des péchés, qui est de source terrestre, puisque c'est sur la terre que Jésus l'a réalisé. Et puis, il connaît ensuite les lieux célestes, cette position dans les lieux célestes. Nous sommes assis ensemble. Nous avons été ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Alors nous y sommes. Sommes assis, et l'Épître aux Colossiens va nous le confirmer. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, et verset 3, va nous dire en effet ceci, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Donc, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes assis dans les célestes. Alors, chers amis, si nous donnons foi à ça, exclusion faite de toute tentative de raisonnement. Dès que nous posons une petite question là-dessus pour essayer de comprendre humainement, n'est-ce pas, nous faussons tout. Il faut croire cela. Si nous le croyons, et il faut que nous le croyons, alors là, nous allons pouvoir réaliser des progrès. Nous allons pouvoir réaliser beaucoup de progrès. Et alors, quand celui qui s'est converti à Jésus-Christ et qui est assis, lui aussi, dans les lieux célestes, là, eh bien, alors, Christ établit dans son cœur le règne des cieux. Tout simplement. Il établit dans le cœur de celui-là, dans l'esprit, le cœur de celui-là, le règne des cieux. Et c'est ce qui explique ce qu'a dit le Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu, et que je vais vous donner là, dans l'évangile de Matthieu, tout au début, au chapitre 5, le Seigneur a dit ceci, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, ou le règne des cieux est à eux, un présent. Heureux les pauvres en esprit, ça veut dire heureux ceux qui ne se targuent pas de vouloir raisonner et opposer à la parole de Dieu leur petite mécanique humaine de pensée. » Leur pensée humaine. Heureux ceux-là, ils sont pauvres en esprit. Bon, parce qu'ils ne veulent pas faire agir une pensée humaine contre la parole de Dieu. Ils sont heureux. À ce moment-là, eh bien, le règne des cieux est à eux. Dieu fait régner les cieux dans leur cœur. Et nous avons au verset 10 la même chose. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, car le règne des cieux est à eux maintenant. Ils sont dans le règne des cieux. En montant au ciel, Christ est allé préparer une place à ses disciples. Vous savez, il l'a dit. Qui, eux aussi, iront au ciel, après leur mort, avec dans des corps nouveaux. Mais pour l'immédiat, le Christ ouvre le sanctuaire céleste et en permet la libre entrée à ses rachetés. Pour l'instant, il permet à l'esprit de ses rachetés d'entrer dans le sanctuaire céleste. Et cette entrée, nous en jouissons uniquement si nous y attachons cette foi sainte, cette foi d'enfant, cette foi heureuse, qui fait absolument table rase de tout raisonnement. Les rachetés peuvent donc vivre leur vie chrétienne assis dans les cieux. Et c'est alors que cette vie se manifeste en sa force. Si nous vivons étant assis dans les cieux, au lieu d'être préoccupé par toutes sortes de choses qui nous éloignent, qui nous troublent, même dans des choses touchant l'Église, des questions secondaires, des aperçus, sortes d'aperçus de personnes, des aperçus matériels, tout ça. Nous nous laissons accaparer, le diable nous amuse avec tout ça, parce qu'il ne veut pas que nous sachions que nous sommes assis dans les célestes et que nous vivons notre vie chrétienne étant assis dans les lieux célestes. Les destinataires de l'Épître aux Hébreux ignoraient cela. Ils ignoraient cela. Ils étaient donc surtout des Hébreux. Ils ignoraient cela. Et je crois qu'on peut dire que dans l'Église aujourd'hui, on l'ignore encore. Et alors, ces destinataires s'efforçaient de vivre leur foi sans les ressources spirituelles nécessaires. Voilà. À quoi on arrive, hein? Nous essayons de vivre notre foi. Oui, bah, bien sûr, hein, nous avons des convictions. Essayons de vivre notre foi, mais nous n'avons pas les ressources spirituelles nécessaires. Et alors, ces Hébreux s'en tenaient aux vérités élémentaires de la parole de Dieu. Arrive souvent, les vérités, bien sûr, la parole de Dieu est toujours vérité, mais les vérités élémentaires, hein, les vérités tout à fait élémentaires de la parole de Dieu, considérées surtout à travers une vue humaine, si bien que leur vie se traînait littéralement au milieu des difficultés. Alors, voilà ce qui nous arrive, nous, enfin je dis nous, d'une façon assez générale, dans nos églises aujourd'hui, n'est-ce pas? On se traîne au milieu des difficultés. Heureux, tant mieux s'il y en a qui peuvent échapper à cela, bon, mais il faut bien dire que, tout de même, c'est assez général. Il est nécessaire, et il est excellent, de s'approprier l'œuvre de Christ à la croix. Mais, bien sûr, c'est excellent, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Il faut s'approprier l'œuvre de Christ alors. Mais il faut aller plus loin. Christ n'est pas resté cloué sur la croix. Il y a d'autres choses après. Il y a une chose grande, c'est que nous venons de voir, c'est qu'il est assis dans les cieux. Et que là, il est la tête du corps de Christ. Eh bien, c'est dû à la croix, certes. Mais après la croix, il s'est passé d'autres choses. Et il faut que nous suivions cela, ce plan, ce dessin. Voyez-vous ? Alors, c'est très bien donc de s'approprier l'œuvre de Christ à la croix, mais il faut aussi s'approprier son œuvre actuelle au ciel. Il faut s'approprier son œuvre actuelle au ciel, où il est la tête de l'Église. Il faut le connaître comme l'agneau qui ôte le péché du monde, ça c'est une chose primordiale, bien sûr, mais aussi il faut le connaître ensuite en tant que souverain sacrificateur qui nous introduit dans le sanctuaire de la communion avec notre Père céleste. C'est sur cette importante vérité qu'insistera l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, en somme, va prendre des chrétiens qui sont, oui, ils sont d'accord, ils sont conscients que leurs péchés leur sont pardonnés sur la base de l'œuvre de Jésus sur la croix, et puis ils ne vont pas plus loin. Ils ne vont pas plus loin. Alors, ça ne marche pas. Ils connaissent évidemment l'œuvre passée du Seigneur Jésus, qui est fondamentale, nous l'avons dit, heureusement, nous l'avons bien dit, donc bien précisé, mais ils ne vont pas plus loin. Alors, évidemment, la vie chrétienne ne peut pas être vécue comme dans la sérénité, comme il le faudrait, dans la force de l'esprit. Il ne faut absolument pas que la vie terrestre se déroule selon nos propres conceptions. Un défaut, ça, n'est-ce pas ? Selon nos propres conceptions. Ah, combien j'en ai vu de chrétiens qui m'ont expliqué qu'ils pensaient qu'ils croyaient que, et qu'ils avaient vu cela, ils avaient organisé que c'était bien comme ça, etc. Ils étaient en plein dans leur conception. Mais non, mais non, mais non. Il ne faut pas cela. D'ailleurs, attention, tout cela est entaché d'orgueil. Un orgueil que l'on appelle quelquefois spirituel. Hein. Mais il faut que la vie terrestre, la vie chrétienne terrestre, soit, se déroule selon la vocation céleste. Et c'est d'en haut qu'il faut qu'elle soit dirigée. C'est d'en haut qu'il faut qu'elle soit inspirée, dirigée, d'en haut. Tout dans la vie chrétienne est de d'essence spirituelle. Tout est d'essence spirituelle. Assez d'une vie d'église que nous arrivons à faire entrer dans nos conceptions. Et tout le christianisme est en train de crouler. Vous savez que on parle de déchristianisation. Il y a un auteur particulièrement là qui nous a quittés il y a quelques années, je crois, Francis Schaeffer, qui a écrit entre autres choses un excellent livre sur qui évidemment est assez alarmant, très alarmant même, mais il a raison sur ce qu'est le christianisme dans le monde. Il a observé, il se sert de Jérémie pour nous montrer ce tableau, et il nous dit que actuellement nous vivons une époque qui est post-chrétienne, c'est-à-dire après la véritable époque chrétienne. Francis Schaeffer, j'aime beaucoup son livre là, La mort dans la cité s'appelle ce livre, La mort dans la cité. Et c'était un excellent croyant, Schaeffer. Ça a été publié par la Ligue, précisément, je crois. Remarquons que le Saint-Esprit ne fut répandu qu'après l'ascension et la glorification du Seigneur. C'est pour cela que le royaume des cieux peut descendre dans les cœurs et dans les vies. Alors on peut noter, et je vais m'interrompre dans une minute, on peut noter, premièrement, Dieu parla par le Fils Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est prophète. Jésus-Christ est prophète. Il est dans son office de prophète. Deuxièmement, il a fait la purification des péchés, il est donc souverain sacrificateur. Troisièmement, il s'est assis à la droite de Dieu, il est alors également roi. Et ce sont là les trois offices du Seigneur. Prophète, souverain sacrificateur, roi. Il est souverain sacrificateur et roi, ce qui ne pouvait jamais exister en Israël. Prophète, souverain sacrificateur et roi. Ce sont là les trois offices du Seigneur.